La pause maternelle. Bonjour et bienvenue à la pause maternelle sur Calade. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Cette émission est destinée aux mamans pour parler sans tabou sur des sujets en lien avec la maternité qui peuvent toutes nous toucher. Le but de cette émission est de donner la parole donc aux mamans pour leur permettre de se libérer de leur vécu. Et chaque mois, nous recueillons donc le témoignage d'une maman, soit en direct, soit de manière anonyme, pour échanger autour de son expérience. Je suis Elodie, je suis doula sous le nom de Doucela. J'accompagne donc les futures mamans et les mamans. Et je co-anime l'émission avec Lucille, musicothérapeute clinicienne au cabinet Laissons Naissance. Salut Lucille, comment ça va?
Ben ça va bien et toi?
Ça va, merci.
Bon, alors aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait lire le témoignage de Frédéric, c'est ça?
C'est ça, oui. Donc Frédéric a souhaité nous faire part de son ressenti à l'annonce de sa première grossesse. Donc elle a choisi de témoigner de manière anonyme. Donc sa première grossesse qui était pourtant désirée, mais l'annonce de sa grossesse l'a beaucoup chamboulée. Elle l'a vécu comme un deuil, le deuil de la vie d'avant. On en a déjà parlé et voilà, donc du coup Frédéric voulait témoigner là-dessus. Et à travers son témoignage, elle a aussi souhaité légitimiser les émotions qu'elle a elle-même ressenties et desquelles elle ne se sentait pas forcément légitime quand elle partageait en fait son ressenti par rapport à l'annonce de cette grossesse, où elle s'est sentie un peu jugée, un peu regardée de manière un peu bizarre, comme si c'était pas normal en fait ce qu'elle ressentait. Donc voilà. Lucille, je te laisse nous lire donc le témoignage de Frédéric.
Oui, et déjà je voulais vous dire merci mesdames pour toutes celles qui écoutent, et messieurs aussi, parce que on a les témoignages qui affluent dans la boîte mail, donc merci beaucoup, on a des prises de contact, on écoute vos voix depuis maintenant quelques mois, et ça fait réellement plaisir d'entendre aussi cette ouverture que vous pouvez avoir, les retours que vous nous faites aussi sur l'émission. Donc voilà, vous savez que vous avez la possibilité de venir témoigner ou alors de témoigner à distance, comme ça va être le cas là pour Frédéric. Donc merci infiniment à toutes, merci infiniment à tous. Et allez, c'est parti, je vous lis le témoignage. Je replonge aujourd'hui dans une étape clé de ma vie. Le jour où j'ai appris que j'allais avoir mon premier enfant. Un jour que l'on n'imagine pas forcément. Un jour merveilleux et à la fois ultra déstabilisant. Ce jour-là, la peur et l'incertitude ont dominé. Ne pas savoir quoi faire de cette nouvelle avec moi-même, la partager avec mon conjoint, bien sûr, mais au fond, ne pas savoir comment l'accueillir. Tout cela mêlé à un instinct maternel inexistant chez moi. Autant de facteurs qui pourraient facilement être incompris face à la pression sociale de devenir mère et être consciente de cette chance. Un état compliqué à partager face aux regards et aux injonctions. Tomber enceinte en quelques semaines. Et alors, où est le problème ? Se plaindre ou s'épancher sur ses états d'âme alors que certaines mettent des mois, voire des années pour tomber enceinte. Je n'ai jamais vraiment partagé cet état d'âme à cette période de ma vie, par peur du jugement certainement. Je ne me suis jamais posé la question de mon réel désir d'enfant. L'appel n'est jamais venu, mais le projet à deux était quand même présent. Ce que je veux livrer aujourd'hui, c'est que le désir d'enfant est tout sauf une évidence et que la bouffée d'amour que certaines décrivent à l'arrivée de leur enfant n'en est encore moins une. Eh bien non, je n'ai pas aimé follement mes enfants à la première minute. C'est grave, docteur? La maternité s'apprivoise jour après jour. L'arrivée de mes enfants a fait bouger mon schéma structurel, très fort. Ma place, mon rapport aux autres, au monde, ma condition humaine, mon passage sur Terre. Des réflexions pas toujours rationnelles qui ont généré angoisse et incertitude, mais aussi immense bonheur et reconnexion à ma part d'enfant. Je crois qu'intimement, l'arrivée d'un enfant met le doigt très fort sur le cycle de la vie et de ce simple passage. Et pour autant, j'adore mes deux enfants et je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Sur nos faire-part, nous avions mentionné notre plus grande aventure, Globetrotter. Nous étions loin du compte, immense expédition. En témoignant, j'ai le vœu de décomplexer chaque femme qui est passée ou qui passe par ce chemin émotionnel. Soyez libre de penser et d'être. Accueillez vos enfants sans culpabilité. L'amour est là, quelle que soit sa forme.
Alors tout d'abord, moi j'aimerais remercier Frédéric pour ce témoignage qui est très important parce qu'elle nous voilà, elle nous partage des choses qui sont encore très taboues, notamment l'instinct maternel qui était inexistant chez elle comme elle dit et qui peut faire culpabiliser quand même beaucoup de mamans et beaucoup de mamans peuvent être jugées quand elles évoquent ça, un jugement qui n'a pas lieu d'être. On peut échanger, on peut discuter avec la personne qui vit ça, mais le jugement ne devrait pas avoir sa place. L'incompréhension, pourquoi pas, d'où l'importance de dialoguer autour de ce sujet. Mais voilà, et du coup, Frédéric s'autorise à témoigner de ça. Et on t'en remercie beaucoup, Frédéric. Je sais pas, Lucie, si tu veux rajouter
Elle me fait penser à beaucoup de choses. Je le trouve vraiment bouleversant, en fait, son témoignage. Très poétique, déjà. Je trouve que ça montre aussi le regard des autres sur sa propre parentalité, à quel point ça peut être aussi une intrusion dans l'espace intime de la personne, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle pense. On ne sait pas ce qu'elle ressent. Et donc, partir dans une surinterprétation ou dans une projection de ce qu'elle devrait ressentir face à l'arrivée d'un enfant, je trouve que c'est quelque chose qui peut être vraiment dangereux, en fait. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les blessures de la personne, on ne sait pas quelles sont les choses qui la traversent, qui la bouleversent, comment ça s'est passé exactement. Peut-être que c'était rapide, mais peut-être que pour le papa, c'est pas aussi facile, que peut-être que pour elle, ça n'est pas facile, comme elle le dit effectivement dans son témoignage. En fait, on ne sait pas ce qui se passe chez la vie des autres, dans la vie des autres. Bon, déjà parce qu'on n'est pas réellement en lien. Et je trouve que on fait les émissions là, coup sur coup, avec celle d'Aimé aussi. Et du coup, que vous entendrez à la rentrée. Mais du coup, on retrouve aussi ce côté-là du lien, encore une fois, et de comment est-ce qu'on peut se sentir humain aussi. Elle parle de l'instinct maternel, que je trouve aussi fantastique. Je trouve que sur l'instinct maternel, c'est pareil que pour la vie, la mort ou quoi que ce soit, il y a une dissonance, il y a quelque chose, je pense, qui n'est pas compris. C'est l'animalité. Le rapport à l'animalité, le rapport à qui on est véritablement en tant qu'être humain, et donc animaux, là, sur cette terre. Et donc l'instinct a été remplacé de manière un peu étrange, comme si c'est quelque chose qu'on devait avoir de manière automatique. Mais il y a de l'instinct chez les animaux, quoi qu'il arrive. Simplement, et certains animaux, je l'ai vu moi-même chez mes chats, qui n'y arrivent pas. En fait, ça dépend encore une fois quelles sont nos blessures, quelles sont les difficultés. Et puis même si on a plusieurs enfants dans une fratrie, peut-être que le deuxième, en fonction de notre environnement dans lequel on aura baigné pendant ces 9 mois, de ce que ça refera sortir chez nous, là, le bébé, on n'arrivera pas à faire le lien.
Oui.
Pas tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera jamais. Ça veut juste dire que c'est une difficulté. Et ça ne veut pas dire que la maman dysfonctionne. Ça ne veut pas dire qu'elle est cassée. Ça ne veut pas dire que du coup, elle n'a pas d'instinct. Ça veut simplement dire que, comme n'importe quelle chose de la vie, ça prend du temps. Donc on laisse le temps au temps et on met en place de la compréhension et de l'empathie.
Et puis par rapport à cet instinct dont on parle, il ne faut pas oublier que l'environnement, il a un rôle aussi essentiel. On en a déjà parlé ensemble, Lucille, dans mon passé de soigneur animalier, je t'ai déjà raconté l'histoire de cette girafe qui a eu plusieurs bébés et les mises bas se sont passées dans un contexte stressant pour elle parce qu'on était présent, on intervenait, on l'enfermait, alors que les girafes sont des animaux qui vivent en groupe et qui se sentent sécurisés en groupe, et là on l'écartait du groupe pour pensant bien faire, qu'elle soit tranquille. Et en fait, ça lui a apporté du stress. Et du coup, ça l'a coupée de cet instinct-là. Et du coup, résultat, elle n'élevait pas ses bébés. À partir du moment où l'équipe de soigneurs et l'équipe vétérinaire avaient compris ça, les prochaines mises bas, ils lui ont permis en fait, d'être avec le groupe, peu importe si c'était dans l'enclos ou en bâtiment. Ils lui ont juste donné accès en fait au bâtiment pour qu'elle puisse choisir où est-ce qu'elle veut se mettre. Et si elle avait choisi de s'isoler, qu'elle puisse s'isoler elle-même. Mais si elle avait choisi d'être avec le groupe, le faire avec le groupe. Et résultat, elle a élevé son bébé. Donc encore une fois, offrir un environnement sécurisant à la maman du départ.
C'est la pyramide de Maslow, hein. C'est le premier besoin, hein, la voilà. sécurité.
Donc dès le moment où elle évoque ce projet d'avoir un enfant, la sécuriser dans son environnement et jusqu'à l'arrivée de l'enfant et même encore après, parce qu'on a encore besoin d'être sécurisé et
complètement
entouré.
Et en fait, j'ai envie de dire, tout au long de notre maternité et de vie de parents, tout au long de notre vie, tout simplement, on a besoin de cet espace-là, de sécurité, de reconnaissance, d'amour, de lien avec l'autre. Ça fait partie de notre construction. Alors, l'être humain est un animal social. Et donc, du coup, il a besoin de ce lien. Il a besoin de solitude pour pouvoir se recentrer, se retrouver. Ça, c'est évident, pour pouvoir se construire, se nourrir lui-même, parce que c'est quelque chose qu'on apprend aussi dans l'autonomie. Pas dans l'indépendance, vous voyez bien ce que je dis, mais dans l'autonomie. Et l'autonomie amène aussi à aller vers l'autre pour construire des relations interpersonnelles. Ça, je commence à vous en parler de plus en plus, mais c'est très, très important de pouvoir être en lien avec les autres parce que ça nous permet de contribuer dans la société. Ce qu'on voit ici avec le témoignage de Frédéric, c'est que elle se sent enfermée dans sa manière d'être.
Et dans les injonctions aussi.
Et dans les injonctions qui, du coup, l'empêchent de faire ce passage de déstructuration, restructuration, donc d'auto-nourrissement aussi, et donc ensuite de pouvoir contribuer, donner à son bébé et puis pouvoir prendre sa place telle que maintenant elle se situe aussi, parce qu'elle a changé, comme elle le dit, la maternité lui a changé beaucoup de choses. Quand elle dit « la maternité s'apprivoise jour après jour, l'arrivée de mes enfants a fait bouger mon schéma structurel », ça c'est quand même très très fort quand elle dit ça, ma place, mon rapport aux autres, au monde. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis « il faut pouvoir se nourrir soi-même, trouver sa place, répondre à ses propres besoins pour pouvoir ensuite contribuer ». Pas au service de la société. Trouver sa place dans la société qui fait qu'on se sentira bien, on se sentira reconnu, entendu, en sécurité, et tout ça. Ça lui a fait bouger des choses dans sa condition humaine et son passage sur Terre. C'est quand même ultra important. On parle pas juste de faire naître un bébé. On parle pas juste d'être là et de faire ce que tout le monde fait. On parle de véritablement prendre conscience de ce qu'est notre passage ici sur cette terre et à quel point ça peut être chamboulant pour l'autre. Et à quel point, du coup, lorsque on met en place des injonctions à être de telle manière, parce que c'est comme ça que nous, on voit les choses, et bien en fait, on peut aussi perturber l'autre. Donc, vraiment et véritablement être dans l'écoute active lorsque la personne ne se sent pas totalement en phase, c'est déjà, ok, vous venez nous annoncer que vous alliez avoir un bébé, d'accord. Et comment tu te sens, toi? Comment tu te sens, toi?
Ça manque cruellement, le « comment tu te sens
Comment tu te sens, toi, même aujourd'hui?
Exactement.
Parce que ça peut changer aussi
parce
demain.
Parce que souvent, c'est « ah ouais, c'est génial, félicitations !» Ok, mais peut-être qu'elle ne le vit pas comme ça, en fait.
C'est ça. Et c'est la projection de soi sur l'autre.
Exactement. Avant d'exprimer ce que vous ressentez, souciez-vous de la maman et le papa, comment ils se sentent après avoir appris cette nouvelle, en fait.
Qu'est-ce que ça fait bouger en vous?
Exactement.
Comment c'était? Peut-être qu'ils auront envie de parler de leur enfance, peut-être qu'ils auront... Et sans faire les psys, on n'est pas là pour ça. Je veux dire, là, c'est notre soutien émotionnel, c'est-à-dire juste simplement comment tu te sens aujourd'hui. Et ah ouais, c'est vrai, ah oui, moi c'est vrai que du coup, dans cet échange-là, moi, quand je suis devenue maman, ça m'a fait penser à ça, parce que mes parents, tel truc, parce que mes amis, telle chose... Juste être en lien. Et ça s'appelle l'écoute active. On peut tous l'avoir, l'écoute active, et l'écoute compassionnelle, en fait. Avoir de la compassion pour l'autre, pour ce qu'il est en train de traverser. Et arrêter de projeter ses propres désirs sur l'autre. Parce qu'on est différents les uns des autres. On a un cœur qui bat, une tête, a priori deux jambes et deux bras, mais ça ne veut pas dire qu'on va penser de la même manière et qu'on va visualiser les choses de la même manière. Donc... accepter l'autre dans sa différence, c'est aussi s'accepter soi-même et donc s'aimer un minimum et donc pouvoir entendre ce que l'autre a à dire, d'une certaine manière.
Tout à fait.
Une petite...
On vous propose une petite pause musicale et puis on revient pour échanger avec Lucille autour de ce témoignage.
Some people live for a fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, that life's a ball, so full of the superficial.
Écoutez La Pause Maternelle, votre sur Calan, votre rendez-vous maternité mensuel, tous les premiers lundis de chaque mois. Donc nous avons reçu le témoignage de Frédéric qui nous fait part de ses ressentis à l'annonce de sa grossesse, des ressentis qui sont souvent tabous encore dans cette société, dont peu de femmes osent parler. Et donc Frédéric a eu le courage de nous en parler, donc c'est vraiment chouette, merci beaucoup. Et dans son témoignage, elle nous parle du deuil de la vie d'avant, et ce n'est pas la première fois qu'une maman vient nous parler de ce deuil-là.
C'est fou, ça revient.
Ouais, ça revient beaucoup. J'irais presque à tous les témoignages.
Oui.
Il y a eu le témoignage d'Aimé où elle nous a parlé du deuil. Il y avait le témoignage de Floriane aussi,
oui,
qui nous en avait parlé. Et c'est ce deuil-là, comme beaucoup de deuils en fait. Et est très tabou et fait peur.
En fait, parce que je pense qu'on a vraiment déstructuré. Tu sais, je parlais tout à l'heure de Peter Pan et de Neverland, oui, sur ce côté-là, en fait, de ne pas vouloir grandir. Oui. Notre société n'a pas de rite de passage, hormis le brevet et le bac. Il n'y a pas de rite de passage d'un état à un autre.
Il y a l'enfance, il y a la préadolescence, il y a l'adolescence.
On a le premier temps où on entre à l'école, on entre au collège, le lycée, bon, finalement, c'est le prolongement, donc c'est on attend la fin avec le bac. Et après, on a plus ces grandes phases, on va dire, qui structurent quand même lorsqu'on est petit, du coup, de se dire, ah ben, quand je serai grand, je passerai ça, je ferai ça. On a un espèce de visuel un petit peu de ce qui se passe. Puis surtout, on voit les grands, on voit ce qui se passe, ne serait-ce qu'à l'école, on voit ce qui se passe. Ah ben, papa et maman, ils ont passé leur bac aussi. Ah, mais à ton époque, il y a des échanges là-dessus. Puis à partir du moment où on devient adulte, punaise, il y a un truc qui se perd, il n'y a plus personne qui parle. C'est ça. Puis tu dois te débrouiller tout seul. Et là, tu es dans une espèce de pays imaginaire où tu te bats encore avec le crocodile tic-tac, et tu ne sais pas en fait que le tic-tac peut s'arrêter à un moment donné. Donc tu n'es plus dans la vie, tu n'es plus dans ce truc-là de transmission et de lien avec les autres, quoi. Et ça, je trouve ça quand même grave en fait, d'une certaine manière, de pas pouvoir échanger. Enfin, quand je lis Frédéric, ou même sur le côté du deuil de la vie d'avant, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on nous a fait croire sur cette vie d'avant.
Oui.
Parce que quand la vie, elle arrive, la vie, elle chamboule, la vie, elle pousse, la vie, elle meurt, la vie, elle croît, elle fait plein de choses, en fait. Elle est en mouvement perpétuel. Mmh. Enfin, je vous donnerai à écouter, je sais pas, moi, une cantate de Bach ou du Liszt pour comprendre que la vie est un mouvement, que on ne peut pas le nier à ce point-là, en fait. Et du coup, je ne reproche pas ça aux femmes. Je dis que là, ce que je reproche, c'est la construction de notre société qui nous empêche de voir, en fait, qu'il y a ces étapes-là et de mettre en place des échanges, des espaces pour pouvoir dire qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse, qu'est-ce qui se passe avant, lorsque tu imagines que tu as envie d'avoir un bébé, lorsque on est dans la phase de préconception, lorsque du coup, qu'est-ce qui se passe chez l'homme, qu'est-ce qui se passe chez la femme, qu'est-ce qui se passe chez un être humain, en fait, lorsque du coup, il est en train de se structurer de cette manière-là. Il y a des études spécialisées qui s'appellent psychologie, mais on peut le faire avant déjà soi-même en étant en lien avec les autres. Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi déconnectés les uns des autres pour ne pas arriver à se transmettre ça? Et est-ce que du coup il n'y ait pas cette peur, cet abysse qui arrive, parce que le deuil c'est un abysse aussi, de considérer qu'il y a quelque chose qui s'est perdu avant, en fait.
Et puis, on va revenir sur la préparation à la naissance. Tout le long de la grossesse, on est suivi, on est accompagné, on est préparé. Après, la qualité de la préparation, ça c'est propre à chacune, et le vécu de la qualité est propre à chacune aussi. Mais voilà, on nous prépare à cette naissance-là, mais on ne nous prépare pas à la vie d'après, en fait.
Non.
On nous permet pas de se profiter si on ne le fait pas soi-même.
Regarde les films, de toute façon.
Oui, bah oui.
Enfin, en fait, je ne reproche pas les choses aux films. Ce que je reproche, c'est notre naïveté de croire que ça va se passer comme dans un film. Ouais. Parce que forcément, quand 1h30 ou 2h, le film va raccourcir toutes les phases. C'est-à-dire, la naissance, elle perd les os, ça y est, c'est parti, on est à l'hôpital, les pieds dans les étriers ou pas, maintenant vous le savez. Mais du coup, le bébé est là, on te met sur le ventre, et puis après, voilà. Ou alors, ça y est, on se rencontre, c'est un petit peu cafouillon, on ne sait pas si on va se mettre ensemble et tout ça, comédie romantique, boum, on est ensemble, on se marie, ils vécurent heureux et compagnie. Mais forcément, en fait, si on conceptualise tous ces trucs-là, enfin, bien sûr qu'on n'est pas naïf au point de croire que c'est forcément ça, mais il y a une forme de naïveté quand même, une part d'enfant chez nous blessé qui peut croire que ce serait bien si ça se passait comme ça. Et du coup, on court après un espèce d'absolu qui n'est pas là, qui n'arrivera pas.
Et puis on s'épuise à courir après ça, ce soi-disant bonheur qu'on pense aller chercher, alors que c'est à nous de construire.
Sauf que c'est pas le bonheur qu'on est en train de rechercher, c'est essayer de combler un besoin. Ouais. Et il faut comprendre aussi quel est ce besoin. Et je trouve qu'à travers le texte de Frédéric, on retrouve aussi la reconstruction d'une femme, de tout le travail, tout son cheminement.
Oui.
C'est ça que je trouve beau aussi là-dedans. C'est tout le cheminement qu'elle a pu avoir pour nous offrir aujourd'hui ces lignes qui sont d'une vérité incroyable, en fait.
Oui, oui, carrément. Surtout qu'on sent sa prise de recul par rapport à ce qu'elle a vécu. Et ça montre qu'il y a eu un certain cheminement de sa part aussi. Mais voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ne cheminent pas, qui n'ont pas ce cheminement-là. Après, le cheminement est propre à chacune, évidemment. Hein. Mmh. Mais il y en a qui vont pas oser cheminer.
Oui.
De peur du... De toute façon, le nouveau fait peur, donc c'est plus confortable de rester dans quelque chose d'inconfortable mais de connu que d'aller vers quelque chose d'inconnu et incertain.
Le nouveau peut ne pas faire peur parce que du coup on connaît et qu'on l'a envisagé, on l'a visualisé.
Oui,
c'est l'inconnu qui fait peur.
Oui, mais parce qu'il y aura déjà eu ce travail, il y aura déjà eu un premier travail.
Oui, c'est vrai.
S'il n'y a pas ce premier travail-là, forcément ça fait peur. Donc...
Et moi, je pense que ça dépend comment on a été véritablement éduqué et dans quel bain
le schéma familial qu'on a reçu.
Alors, je pense pas qu'à la famille. Là, je pense véritablement de manière beaucoup plus large, de manière sociale. Comment est-ce que on s'est construit dans notre société française? Comment est-ce qu'on voit les choses? Comment ça nous est expliqué?
Oui.
Et du coup, oui, peut-être qu'on peut être dans cette peur en apparence, dans cette méfiance en apparence. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire autrement, mais ça veut dire que des fois ça nous demande de dépasser un petit truc pour pouvoir le faire, comme les gens qui ont envie de quitter leur boulot du jour au lendemain et qui disent moi je vais faire humoriste, moi je vais faire tel truc, Souvent, les humoristes étrangers, lorsqu'ils viennent en France, ils disent « Mais comment ça ? Mais t'as fait... mais enfin, moi, je le ferais pas, parce que c'est pas possible, parce que la sécurité, parce que le CDI, parce que tel truc. » Et alors que dans d'autres pays, ils vont dire « Ah, waouh, c'est incroyable !» Enfin, voilà, c'est pas juste courageux, c'est « Ok, ben, go for it, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'as envie de faire ? Alors, et comment tu vas le faire ?» Voilà, on te pose toujours la question de l'après, parce que c'est un truc de construction. Que tu y arrives ou que tu y arrives pas, finalement, les gens s'en fichent, c'est pas ça. C'est juste, on t'accompagne, on garde le lien et tout ça. Ça n'empêche pas de dire « Waouh, bah, ok, ça doit te faire un peu peur, ouais, mais voilà comment je le vis. » C'est ça aussi, ça, être en lien. Oui. C'est reconnaître et ne pas projeter sur l'autre sa propre croyance. Donc là, on en parle là-dessus, mais c'est pareil pour la naissance, c'est pareil pour la parentalité, c'est pareil pour les décisions de fin de vie dont on parlait tout à l'heure, voilà, sur... décision de fin de vie d'un enfant, voilà. Est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'on n'écoute pas un enfant lorsqu'il a envie de dire ça? J'espère que vous voyez un petit peu où on veut en venir, où c'est pas, on s'écarte pas du sujet, on s'écarte pas du témoignage de Frédéric. On rejoint en fait le point de jonction où à quel moment un être humain peut décider de ce qu'il a envie, de ce qu'il ressent, de la manière dont il peut l'exprimer, et à quel point on est en mesure ou pas d'écouter ça. Et à quel point il peut être aussi essentiel de déconstruire certaines choses en soi. Et donc, peut-être que des fois, c'est nécessaire de faire un travail aussi pour pouvoir accompagner. C'est pas un « il faut, tu dois ». On soit bien d'accord, il n'y a pas d'injonction à faire un travail sur soi. Mais si on est dans l'apprentissage, bah, ça peut être aussi intéressant d'avoir un autre avis qui soit peut-être neutre, qui ne juge pas, et voilà, qui est cette forme d'authenticité et de bienveillance. Et je trouve que c'est ce qu'on retrouve chez Frédéric. Je ne sais pas si elle a fait un travail seul ou accompagné, mais je trouve que dans les deux cas, le travail qu'elle a fait est juste génial. Donc bravo à elle.
Oui, bravo Frédéric pour ce beau travail et ce beau témoignage que tu nous as offert pour cette émission. Je vous propose qu'on se quitte sur ces dernières phrases. Encore un grand merci Frédéric d'avoir osé poser tes mots déjà dans un premier temps et sur des sujets dans lesquels toi tu ne t'es pas senti légitime, mais tu as osé quand même le faire et je suis sûre que ça va aider d'autres mamans à se sentir légitimes dans leur ressenti. Peu importe quel ressenti, mais voilà. Qu'on se sente toutes légitimes dans nos ressentis, parce que c'est nos ressentis. Et encore une fois, personne ne peut porter un jugement sur nos ressentis.
Et vous avez le droit.
Tout à fait. Vous avez le droit. Et puis, bah, sinon, on se retrouve, nous, tous les premiers lundis de chaque mois, de 10h à 10h30, pardon, sur Caladma Radio. En attendant, vous pouvez nous envoyer vos témoignages à l'adresse mail de l'émission qui est lapausematernelle@outlook.fr. Et on se retrouve après l'été.
C'est ça, après l'été.
Après l'été.
Et bien alors, très bel été à tout le monde.
Très bel été à tout le monde. Et nous, on se retrouve le premier lundi de septembre.
Bel été,
Lucille. Bel été, Lucille. À bientôt.
À bientôt.
La pause maternelle.